1, 2, 3, 4, 5, 6.
Salut, c'est Yann avec vous pour l'émission Le Grand Tout. Vous écoutez Canal B, il est aux alentours de 17h. L'émission est diffusée du lundi au vendredi de 17h à 18h. Vous la retrouvez en rediffusion du mardi au samedi matin de 9h à 10h. Et puis, playlist à écoute à retrouver sur canalb.fr. On continuera à écouter des extraits de notre album Disque d'or de la semaine, l'album Mou pour l'américain King Tuff. On ira du côté de Nashville avec Monsieur Jack White, lui-même. Et puis on écoutera deux relectures de morceaux qu'on trouvait sur l'album Piscola Bis numéro 2 par Golden Bug. Pour la page culture, on poursuivra la découverte des nouvelles de Reine Noire qui paraîtra le 7 mai prochain chez Asphalt, un recueil de 10 nouvelles qui se passent à Rennes et qui ont la particularité d'avoir été imaginées dans un quartier précis de la capitale bretonne aujourd'hui. C'est l'auteur rennais Benjamin Dierstein qui nous parlera de sa nouvelle L'odeur de la fraîche. Et puis, puisque c'est mercredi, on retrouvera aussi une autre page littéraire avec plein les poche numéro 67. Soisic Le Bail nous présentera Le Barman du Ritz de Philippe Collin, paru chez Le Livre de Poche. Et puis pour la session Info Concert, un événement ce vendredi au Tiana Place Sainte-Anne, justement, avec Mr. Bones et Miss D qui ouvriront pour les Roberta Lips. Je vous souhaite une bonne émission qui va débuter immédiatement avec un morceau toute guitare électrique dehors, une Gibson SG bleue pour King Tuff qui revient à ses premières amours rock'n'roll et qui accompagne cette nouvelle sortie eh bien d'un journal physique papier qui accompagne chaque exemplaire de l'album. Et ce journal s'appelle The Daily Moo.
Thank you.
And the ford of the rivers is called the Strait. And I gotta get out, gotta get out, and gotta find a way to eat the fruit from the tree of fate. I bet it tastes like this.
Évidemment, toutes et tous reconnus, j'imagine, Jack White qui revient avec deux nouveaux titres. C'est disponible en streaming depuis un peu plus de deux semaines pour le label Third Man Records. Et puis, il y a un vinyle qui est disponible depuis le 4 avril et puis qui est épuisé depuis le 4 avril et deux minutes, sans doute, puisque c'est ce qui se passe à chaque fois pour les sorties du label Third Man, la sortie de Jack White notamment. Ça a été mis en vente dans les boutiques Third Man de Nashville, de Détroit et de Londres le 4 avril sous format vinyle 45 tours tricolore et puis noir. Et puis vous retrouverez ça dans les disquaires indépendants du monde entier. Ça fait peut-être une semaine à peu près que c'est disponible dans les magasins. Et puis ça sera aussi dispo pour le Record Store Day. On écoutait un morceau très électrique, tout à fait à l'image de ce qu'on connaît de Jack White. Ça ne révolutionne peut-être rien, mais c'est toujours fait avec fougue et panache. Les grands fans de Jack White le retrouveront peut-être les 13 et 14 juin à l'Olympia ou le 18 juin aux Nuits de Fourvière à Lyon. Quant à nous, on va poursuivre avec autre chose, ça n'a plus rien à voir. On retrouve Golden Bug. Golden Bug, projet de musique électronique d'un producteur basé entre Paris et Barcelone et qui sortait en 2022 l'album Piscolabis. Il remettait le couvert deux ans après en 2024 avec Piscolabis 2, et comme il ne semble pas vouloir se séparer de ce projet-là, eh bien, il donnait tout récemment une dernière occurrence avec un EP, Ricochet, du nom d'un des morceaux de l'album Piscolabis 2. J'espère que vous, jusqu'ici, vous suivez. Et cette fois, on retrouve sur la version chantée du morceau Ricochet, eh bien, les rappeurs Dooney et puis Nilo Carter. Dooney, vous l'avez entendu hein, sur la bande originale du film Anora, sans le savoir peut-être. Voici un morceau tout à fait réussi, je trouve, une transformation radicale d'un morceau électronique instrumental à une version un peu plus sombre encore et rappée donc par Dooney et Nilo Carter. Voici Golden Bug.
Iced out my wrist, is not in bulletproof. cars every day. Shit gets silly, but it's all gunplay. Fuck a meal ticket. Fuck it, y'all popping and we still in it. London summer's looking good in it. All black cause we killing shit. We not all that, we ain't feeling it. Stars align when we link up, serious. Bottles up, we getting furious. Step to me, motherfucker. Show up, shut shit down. Don't give no fucks, pull up, it's on now. Ready for what we ain't trippin' at home, man. All up, under, another round. All up, my thugs show up, shut shit down. Don't give no fucks, pull up, it's on now. Ready for what we ain't trippin' at home, man.
Le titre Ricochet, revisité par les rappeurs Duny et Nilo Carter. C'est un EP pour l'artiste Golden Bug qui a donné à remixer aussi quelques autres morceaux, notamment ce titre Boomerang, retravaillé par les excellents Froid Dub. Et puis juste après, la page culture du Grand Tout, on retrouvera l'auteur rennais Benjamin Dierstein. We'll be right back. C'était à l'instant Boomerang, un titre de Golden Bug revisité par Froidub. Ça figure sur un nouvel EP, le Ricochet EP, pour le label bien nommé La Belle. Dans la page culture du Grand Tout aujourd'hui, on poursuit cette balade dans le recueil Reine Noire, Nouvelle Noire, à paraître le 7 mai. Un recueil conçu comme un guide de voyage qui vous fera découvrir ou redécouvrir la ville sous la plume de 10 auteurs et autrices de Rennes. Là, je ne sais pas si on aura envie véritablement d'aller se balader du côté de la place Sainte-Anne après avoir lu la nouvelle de Benjamin Dierstein. En tout cas, il nous en lit juste immédiatement un court extrait.
Il a hésité quelques secondes et s'est remis à pleurer comme une madeleine. Mon gosse a disparu. Quand ça ? Je sais plus trop, j'étais dans les vapes, qu'il a dit en rotant. Il a désigné la cible de fléchette au fond du bar et il a ajouté : la dernière fois que je l'ai vu, il jouait au 301 en buvant un cacolac. Il est peut-être rentré à la maison ? Il a pas les clés. Et ta femme, elle sait pas où il est ? Ma femme, elle s'est barrée à Nice avec mon meilleur pote. Les gens me quittent parce qu'ils s'emmerdent avec moi. Même mon chien m'a largué, vous voyez le tableau ? Le type s'est remis à sangloter. Je l'ai pris dans mes bras et je lui ai tapoté le dos avant de le prendre entre quatre yeux. Je connaissais bien ce genre de gus. C'était le prototype du mec qui se cachait derrière son verre au bout du comptoir et à qui personne ne parlait jamais. Mon cœur m'a fait chavirer l'espace d'un instant, mais mon besoin de dégoter de la fraîche pour finir le mois est revenu à la vitesse d'un boomerang australien. Je te le retrouve pour 1000 balles, ton fils. J'ai rien, monsieur, pas une thune. 500. J'ai tout cramé en jouant Amigo ce matin, monsieur. 200 balles. J'ai que dalle, je vous dis. Même pas 100 balles ? Pour que je te retrouve ton gosse, merde, ça vaut bien 100 balles, non ? Le type a fouillé dans ses poches et en a sorti tout un merdier, composé de vieux mouchoirs, de tickets de métro et de restes de sandwich, au milieu desquels se détachaient quelques pièces. Il y avait environ 12 balles. Ça vous irait, ça ? J'ai hésité une demi-seconde, mais en me retournant vers Samira, j'ai pensé aussitôt au maître de double sus qu'elle m'avait promis. Et merde, va pour 12 balles.
Un extrait de L'odeur de la fraîche, nouvelle par Benjamin Dierstein, notre invité aujourd'hui. Bonjour Benjamin.
Bonjour Yann.
Qui contribue lui aussi, comme 9 autres de ses collègues, auteurs, autrices, à ce recueil. Ça s'appelle Reine Noire, Nouvelle Noire. C'est Asphalte qui fait paraître ce recueil-ci où on est à Rennes, vous l'avez compris, on a déjà commencé à en parler, et on est là plutôt du côté de la Louse en fait, avec Freddy. Freddy Morvan, vous l'avez peut-être déjà croisé dans un autre écrit de Benjamin Dierstein. Et oui, c'est un personnage qui est quoi, un personnage fétiche pour toi ?
Ouais, c'est un peu une espèce de version. Il y a plusieurs versions de moi dans mes personnages de mes fictions. Lui, c'est la version, c'est celui qui aurait pris le chemin de l'alcool, de la drogue à 100%. Donc c'est voilà, c'est un mec qui est multi-toxique, codépendant à tout et qui a foiré toute sa vie complète et qui essaye de se démerder. Il construit sa vie avec des bouts de ficelle tous les jours, quoi.
Et qu'on voit au début de cette nouvelle prêt à tout quasiment pour retrouver ce gamin qu'il n'a pas vu, il sait pas à quoi il ressemble, il sait juste que peut-être en échange il y aura un mètre de double sus, donc ça l'excite un petit peu. On se retrouve place Sainte-Anne, voilà, et autour de la place Sainte-Anne, la rue d'Échange, un peu plus loin, peut-être le Haut-Délice, par là j'imagine, et on se retrouve dans ce qu'on appellerait peut-être aujourd'hui Stalingrad, en fait Sainte-Anne-Lingrad, vous voyez un peu le jeu de mots, parce que c'est un peu la plaque du deal aussi, enfin il y en a plusieurs des plaques de deal à Rennes, de toute façon ça se déplace. Il va se passer des choses tout près de l'église, il va se passer des choses près d'un manège, il va aller un petit peu visiter un immeuble juste à côté, et puis peut-être va-t-il le retrouver, ce petit prince des fléchettes qui ne se nourrit apparemment que de cacolac. Donc on voit, il y a plein de petits éléments très, très légers en fait, qui ensemble font une sorte de bouillabaisse infernale, sans doute ce qui se passe dans la tête de Freddy. Comment tu l'as pris, cette invitation à participer à Nouvelle Noire ?
Déjà, moi, ce que j'ai bien aimé, c'est l'idée que chaque auteur allait se focaliser sur un quartier. Et bon, c'est vrai que moi, j'ai passé énormément de temps à Saint-Mich, Sainte-Anne. J'ai habité là-bas, et en dehors des périodes où j'ai habité là-bas, j'y passais énormément de temps quand j'étais jeune. J'y vais encore aujourd'hui de temps en temps. Et c'est vrai que moi, j'adore ce quartier, parce que déjà, j'ai 100 000 anecdotes de ma vie. Donc, j'adorais cette approche-là par quartier. Et c'est vraiment ça qui m'a branché dans le projet. Donc, direct, quand Asphalt m'a démarché, j'ai dit bon bah moi je suis chaud, par contre je veux absolument Sainte-Anne-Saint-Mich quoi. Ils m'ont dit ok, pas de problème, donc j'ai dit ok, feu vert.
Une vingtaine de pages où on voit un monde interlope, mais sans que ce soit très grave en fait. On voit pas les aspects négatifs de ce trafic de drogue par exemple, on voit juste des gens un peu paumés quand même.
Ouais, c'est plus des quepons, des punks à chiens, on voit pas trop de choses violentes ou négatives. J'avais envie de donner un ton assez léger à l'ensemble, donc on voit aussi bien des gamins avec leurs parents au manège de Sainte-Anne, parce que bon, alors là c'est là qu'on voit que c'est le nouveau Sainte-Anne, parce que ça avant il y avait pas ça. Hein. Et ça mélange aussi bien des gamins avec des familles que des punks à chiens, que des jeunes qui sont en train de danser avec des enceintes sur de la tech plus bas au niveau de l'église, ce qui a posé les derniers problèmes où il y a eu les bastons avec les flics. Et bon, moi, quand j'ai pas participé à tout ça, mais j'en ai entendu beaucoup parler. Moi, ça m'a vachement rappelé, moi, quand j'étais gamin et que c'était l'époque de Bernadette Malgorn, la préfète, qui nous assaillait à coups de canon à eau et tout ça. Et voilà, ça bastonnait grave avec les keufs à l'époque. Et on faisait un peu pareil. Alors, on n'avait pas les moyens technologiques de maintenant, c'est-à-dire toutes ces enceintes portatives qui font un gros son assez rapidement. On n'avait pas ces moyens-là, mais on était un peu dans les mêmes démarches. Donc voilà, j'avais envie de raconter un peu tout ça aussi.
On est aujourd'hui, véritablement, hein, tu le disais, avec ces éléments qui n'existaient pas, on n'est pas dans quelque chose de politique comme tu as l'habitude de l'aborder dans les romans récents et les trilogies. La dernière, où dans Bleu, Blanc, Rouge, par exemple, tu commençais cette trilogie où on est dans les années 1970-80. C'est très, 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 très loin. Tu as besoin d'un peu d'une soupape comme ça pour sortir de l'écriture très dense et très documentée et très politique qui t'anime d'habitude.
Ouais, complètement. D'ailleurs, quand tu faisais référence au roman dans lequel le personnage de la nouvelle, Freddy Morvan, apparaissait avant, qui s'appelle Un dernier ballon pour la route, c'était déjà ça aussi une soupape à l'époque où j'écrivais une autre trilogie, mais qui était très noire et assez documentée aussi, qui se passe entre 2011 et 2013 au moment de l'alternance Sarkozy-Hollande. Et voilà, moi, c'est clair que quand tu bosses sur des trucs, sur des bouquins sérieux, très premier degré, très documenté tout ça, ou quelquefois c'est tellement documenté que t'as l'impression d'être en train d'écrire une thèse, si tu veux, quand t'arrives au bout de ces bouquins-là, quand t'écris le dernier point, t'en as un peu marre, et t'as envie d'écrire des trucs un peu plus légers. Donc généralement, quand on me propose des formats de type nouvelle ou tout ça, j'ai plutôt envie d'écrire des trucs un peu fun, tu vois. Avec tout ce que j'ai dans la tête, les blagues que j'ai dans la tête, les trucs que je peux pas mettre en fait dans mes romans plus sérieux.
Quand on revient sur ta biographie, on voit que tu as été étudiant en cinéma, ouvrier sur une chaîne de montage automobile, formateur radio, relation presse en discothèque, tourneur, directeur artistique d'un label, hein, c'est Tripalium Corp, c'est encore le cas pour ça. Est-ce qu'il faut avoir fait tous ces métiers-là, toutes ces occupations-là, les avoir eues dans sa vie pour aller vers l'écriture d'après toi ?
Non, pas forcément. Ça dépend de quoi tu parles. En fait, quoi. Moi, j'aime bien parler à la fois des hautes sphères quand je fais des bouquins assez sérieux, et pourtant, c'est des choses que je connais pas très bien. Et pour le coup, il faut bien me documenter pour réussir à en parler d'une manière assez juste. Par contre, quand je parle de la rue et de la nuit ou de ces choses-là, c'est sûr, c'est plutôt ma propre expérience que je mets en avant. Et pour le coup, voilà, je fais appel pas à de la documentation, mais à mes souvenirs et à mes sensations, mes sentiments, mes émotions, tout ça. Et là, pour le coup, c'est effectivement le vécu qui prime.
On revient à cette nouvelle-ci. Elle se nomme, je vous le rappelle, L'odeur de la fraîche. La fraîche, elle existera, peut-être, puis elle disparaîtra aussitôt. Puis est-ce qu'elle reviendra ? C'est possible. Tout est possible, j'ai l'impression, avec Freddy Morvan, y compris tomber sur une vieille dame aux cheveux violets qui confond un petit peu le gamin que Freddy est en train de rechercher avec une star un peu disparue, alors trop jeune peut-être pas, hein, disparue en tout cas il y a longtemps, des côtés un peu hilarants comme ça qui viennent émailler cette enquête-là. Il a des modèles, Freddy Morvan, dans la vie, parce que le personnage, c'est un ancien flic qui est tombé pour avoir pris de la schnouf là où il ne devrait pas l'avoir pris dans les preuves, quoi, en fait, hein, c'est ça.
Qu'est-ce qu'il a fait ? Ça, c'est ce qu'on apprend dans la nouvelle, mais dans Un dernier ballon, on apprend qu'en fait, d'avant, il était à l'armée, il s'est fait virer de l'armée. Après, il a été dans la police, il s'est fait virer de la police. Après, il était dans une boîte de sécurité privée, il s'est fait virer de... Le mec, il a tout essayé dans la sécurité, si tu veux. Et il n'y a rien qui marche, donc à la fin, il est sans emploi, mais il se prend toujours un peu pour un détective, tu veux.
Mais il en a donc des modèles de détective. Lui, aujourd'hui, dans sa tête, quand on le retrouve au comptoir, complètement affalé, là, sur le comptoir du bar ?
Non, parce que c'est un mec qui n'a pas de modèle. Mais moi, en tout cas, quand je l'écris, il y a un peu des modèles, si tu veux. Quand j'écris des scènes un peu absurdes comme ça, il y a un peu de... pour moi, j'imagine des trucs un peu à la Caverne et Delphine, tu vois, en termes de cinéma. Enfin, un polar, tu vois, qui serait fait par Caverne et Delphine, tu vois, ça pourrait ressembler un peu à ça, à mon avis. Et pour revenir sur, tu parlais de l'odeur de la fraîche, le titre, c'est un petit clin d'œil à la couleur de l'argent. Et, parce que le gamin, c'est une star des fléchettes, et en fait, il se fait embarquer par quelqu'un qui veut lui faire une tournée comme Newman et Tom Cruise dans le film de Scorsese.
J'ai demandé à Benjamin Dierstein comme à nos invités qui ont participé à Reine Noire, Nouvelle Noire, et vient de nous choisir une sélection musicale en deux titres. Là, tu allais chercher assez près, finalement, puisque c'est une production du label Tripalium Corp.
Ouais, complètement. Moi, j'avais envie d'illustrer ce que... Il y a de la musique aussi dans la nouvelle, parce qu'à un moment, voilà, il est avec les jeunes qui écoutent du son...
Autour du Vieux Saint-Etienne.
En bas, voilà, exactement. Et j'avais envie d'illustrer ça avec quelque chose de bien dance floor et en même temps d'assez moderne. Et voilà, ça c'est typiquement un des sons qu'on peut sortir sur le label qui a été produit par des Rennais. Donc j'avais envie aussi de mettre des Rennais en avant. Et puis voilà, ça ressemble vraiment à ces sons de maintenant qui s'inspirent à la fois de la techno, de la bass music, de la trance. Ça va vraiment piocher partout. Et voilà, c'est vraiment l'image de ce qui se fait maintenant et dans les choses qui sont bien produites.
Alors Benjamin, tu viens de Lannion, tu as vécu à Rennes, tu vis encore à Rennes, tu n'écris pas que sur Rennes non plus. Tu te déplaces pour aller chercher de la documentation aussi, des lieux que tu vas mettre en scène dans tes romans, ou alors c'est juste de la documentation par livre, par internet?
Non, je me déplace pas mal. Je vais beaucoup à Paris, mais c'est surtout pour la documentation. Mes romans plus sérieux se passent souvent à Paris, parce que quand tu veux parler de la politique, quand tu veux parler de Beauvau, en fait, t'as pas le choix, t'es obligé de faire que ça se passe à Paris. Et moi, mes romans plus sérieux parlent beaucoup de Beauvau, du ministère de l'Intérieur, de comment ça fonctionne, de l'administration interne, des rapports entre les hiérarchies, les syndicats, etc. Et donc, forcément, pour te documenter là-dessus, t'es obligé d'aller à la BNF, parce qu'il faut aller chercher de la presse de l'époque, la lire sur microfilm, aller aux archives de la préfecture de police, aller aux archives nationales, etc. Donc, je passe pas mal de temps à Paris pour ça. Mais c'est pour ça que quand je suis sur des petits formats, j'ai plus envie de parler de la Bretagne et de Rennes ou de. J'ai pas parlé d'une manière explicite de Lannion dans les trucs que j'ai écrits, mais sans citer ça et en déplaçant ça un peu plus dans le Cresbraise, un peu plus en dessous, mais je parle un peu de Guingamp, de tous ces coins-là.
En cherchant quelques informations, alors je n'ai pas lu les gros volumes qu'a pu écrire Benjamin Dierstein, mais quand même en furetant un petit peu, on peut apprendre que toi, tu as plutôt été baigné dans du Peckinpah, Elroy, Chimino, mais on cite aussi à ton endroit parfois Coluche ou Debord. Alors c'est de grandes extrémités tout ça. Tu te les fais comment ta culture littéraire en noir surtout?
Ça c'est essentiellement grâce. En même temps ça vient de plusieurs sources. Moi quand j'étais petit j'avais beaucoup de mal à lire des bouquins parce que ma maman était une grosse passionnée de littérature et de romans noirs. Mais elle m'a amené à la bibliothèque et je pense qu'à la bibliothèque j'étais mal conseillé parce que moi je regardais déjà beaucoup de films adultes. Je lisais beaucoup de BD adultes. Et à la bibliothèque, on me filait des romans, genre La Bibliothèque Verte, tu vois. Et ça me gonflait. Et du coup, j'avais l'impression que la littérature, c'était ça, si tu veux. Que la littérature, c'était chiant, par essence. Mon gros déclic, ça a été quand mon oncle m'a filé L'Une sanglante d'Elroy. Je devais avoir 12 ou 13 ans. Et là, j'ai pris, si tu veux, un énorme choc parce que j'ai trouvé dans ce bouquin des trucs beaucoup plus dramatiques, intenses et violents que ce que je voyais au cinéma, quoi. Enfin, comparé à Piège de Cristal, si tu veux, c'était puissance 10. Donc là, je me suis dit, non, en fait, la littérature, c'est tout le contraire, ça peut être encore plus fort que ce qu'il y a au cinéma. Donc c'est à ce moment-là où j'ai commencé déjà par lire tous les Elroy. Et ensuite, j'ai pioché à fond dans la bibliothèque de ma mère, où là, j'ai retrouvé beaucoup de choses qui m'ont inspiré. Alors, des trucs un peu moins violents qu'Elroy, mais plus des trucs de littérature américaine, moi, que j'adore, tout ce qui est Jim Thompson, James Crumley, tout ce qui est vraiment la littérature un peu cassos et tout ça, quoi, tu vois.
Et est-ce que sur le champ français, un Manchette n'aurait pas été quand même aussi une sorte de grand écart entre le côté très, très hard-boiled finalement à la française et le côté très politique aussi, Nada ou l'affaire El Gustro, qui vont pas être, pour Nada, être très bien adaptées au cinéma, sont des choses aussi un peu marquantes dans le polar politique?
Ouais, c'est sûr. Mais je pense surtout pour cette génération-là. Moi, ça m'a pas complètement marqué. Je les ai lus. J'ai lu les Pouilly, les Deninx. J'ai lu tous ces auteurs. Manchette et tout le néo-polar français, tous ceux qui viennent après. Fayardi, etc. Ça m'a pas foncièrement marqué. Il y a des Jonquet qui m'ont marqué. Genre Moloch de Jonquet, ça m'a marqué. Les autres, pas autant que les Américains, je sais pas pourquoi. Et en parlant avec d'autres gens de ma génération, ils ont aussi pas mal ce ressenti-là. Autant les gens qui ont 10 ou 20 ans de plus que moi me parlent tout le temps de Manchette et tout ça, et ont eu vraiment un choc avec ça. Autant moi, je sais pas, c'est peut-être parce que quand j'étais gamin, j'ai été abreuvé que de culture américaine, enfin du cinéma américain, de Spielberg, de McTiernan, etc. Je sais pas, c'est plus la littérature US, moi, qui la manière de faire qui me paraît plus crue, plus vicieuse. Je sens que les personnages sont un peu plus jetés, tu vois ce que je veux dire? Je les trouve un peu plats, les personnages, souvent dans la littérature française, dans le néopolar en tout cas, je les trouve soit un peu trop gentils. Il y a un truc un peu manichéen, et je pense que c'est lié aussi au fait que ça soit très partisan politiquement, alors que les Américains, ils sont vachement plus anards en fait. Et moi, je me retrouve plus là-dedans.
On peut lire sous ta plume des évocations des années Giscard. Il y a Mérine qui se fait assassiner, il y a Pierre Goldman et Bocassa, Alain Delon, tout ça. Ça, c'est des personnages qu'on retrouve dans tes romans, donc que tu aimes bien faire intervenir la réalité dans la fiction. Est-ce que d'ailleurs, c'est pas l'inverse ? Est-ce que tu fais pas plutôt intervenir la fiction dans la réalité ?
Ouais, complètement, ouais. Ouais, parce que j'essaye de faire en sorte que la fiction prenne le pas, en tout cas là-dessus. Mais c'est vrai que ça m'amuse de. C'est, en plus, ça, c'est quelque chose qu'on a beaucoup de mal à faire en France. Tu vois, quand je distingue. Je parlais juste avant de la différence entre la littérature US et française. Une autre grosse différence, c'est que les Américains, ils n'ont pas peur de raconter leur propre passé en le mettant en fiction, si tu veux. Ça ne les dérange pas du tout. En France, ça nous fait vachement peur, ça, d'utiliser des personnages réels et de leur faire dire des trucs. Moi, ça me dérange pas à partir du moment où je leur fais pas faire des trucs qu'ils ont pas fait, a priori, qui n'ont pas été documentés avant, et que je peux leur faire dire des conneries, mais si tu veux, le bébé de show et le guignol de l'info leur font déjà dire des conneries. Donc, moi, je considère que j'ai le droit de les caricaturer aussi. Et voilà, ça m'amuse beaucoup d'utiliser des tas de personnages réels comme ça dans mes romans. Mais après, ce qui est important, le plus important, c'est la fiction, c'est d'avoir des personnages fictifs qui prennent le pas là-dessus et qui, voilà, et donc c'est leur histoire que je vais raconter, pas celle de Giscard ou de Bocassa.
On peut lire le dernier tome qui est sorti il n'y a pas très longtemps, ou qui sort en ce moment d'ailleurs.
14 juillet, il est sorti en janvier.
Oui, donc il est sorti il y a quelques mois. Deux grosses trilogies hein, que tu as pu faire. Est-ce que déjà tu imagines un autre champ d'écriture pour la suite ?
Ouais, bah va y avoir un pont entre ces deux trilogies-là parce que il y a une dizaine de personnages en commun entre ces deux trilogies, même si c'est des trilogies qui se passent à 40 ans d'écart à peu près, enfin 30 ans d'écart. En gros, t'as une partie des personnages qui sont des quinquas, des soixantenaires dans la trilogie qui se passe en 2011 et qu'en fait que tu vois à 20, 30 ans dans la trilogie qui se passe sous Giscard et Mitterrand. Mais là, je vais faire un peu une pause parce que voilà, j'ai envie de parler d'autres choses. J'ai envie de parler de trucs qui sont plus proches de moi aussi. J'en ai un peu marre de passer mes journées à la BNF à regarder des microfilms. Donc le bouquin sur lequel je suis en train de bosser, là, ça va raconter l'arrivée de la techno en France dans les années 90. Je ne vais pas raconter les prémices de la rave, mais je vais raconter vraiment le moment où ça explose en 92. Ça va commencer en 92 et ça va se terminer en 2001. Au moment où tu as les lois Mariani, qui sont les lois les plus répressives. Tu avais déjà eu en 95 la circulaire Pasqua, mais en 2001, Mariani, c'est vraiment le moment où il y a des lois vraiment anti-free party. Donc je vais raconter un peu qu'est-ce qui va se passer pendant tout ce moment-là. Et pas que sur la scène rave, free et choses illégales et tout ça. Je vais raconter aussi les clubs, donc la French Touch, etc., le Technopole, la Technoparade, tout ça. Et à travers une bande de potes qui vont être des orgas de rave party et qui vont partir tous vers des chemins différents. À l'image, en fait, de la scène électronique, c'est-à-dire qu'à la base, en 92, tu avais un petit noyau de personnes qui étaient tous potes, qui se connaissaient tous, et qui se sont complètement divisés, à la fois en fonction des styles qui sont nés, des sous-styles, la trance, le hardcore, la jungle, etc., mais aussi en fonction de ceux qui sont soit allés vers les clubs, soit allés vers les free parties, soit qui sont restés dans les raves, mais qui sont, au final sont devenus des espèces de festivals légaux, complètement légaux. Et donc voilà, c'est ça que ça va raconter.
D'accord, donc il y aura peut-être moins de Giscard de Pierre Goldman, mais plus de Spiral Tribes, de Laurent Garnier, de Daft Punk.
Voilà. Ça va être on va croiser encore plein de personnages réels, mais ça va être tous ces gens-là qu'on va croiser, tout à fait.
Mais ça aura un côté politique aussi, évidemment.
Oui, bien sûr.
Parce qu'on le voit, oui, elle est criminalisée encore, la scène techno, aujourd'hui.
C'est complètement l'actualité, donc ouais, tout à fait.
Bon, on va terminer avec Benjamin Dierstein autour de cette discussion sur cette nouvelle que je vous encourage à lire, comme tout le recueil d'ailleurs, L'odeur de la fraîche dans Reine Noire, Nouvelle Noire, paru chez Asphalt. On va terminer en musique en retournant vers Freddy et puis vers ce prince des fléchettes. Ça se termine sous les riffs électriques de Rory Gallagher. C'est ton goût à toi ou c'est vraiment, tu t'es dit, il faut que je trouve un morceau qui pourrait coller à l'ambiance que je décris ?
Alors, j'adore jouer aux fléchettes et j'adore les musiques de pub. Et j'adore à la fois les trucs trad irlandais et à la fois le rock à guitare, le rock à strato, les pures musiques de pub et notamment ce titre de Rory Gallagher qui est énorme. Bon, pur truc de Guitar Hero.
Chin Kicker, merci Benjamin. Et à une prochaine fois.
Merci, à bientôt.
C'était le titre Shin Kicker par Rory Gallagher, morceau qu'on entend, oui, dans les pages de la nouvelle L'odeur de la fraîche de Benjamin Dierstein. Vous la retrouvez, cette nouvelle, aux côtés de 9 autres, écrites par des auteurs et des autrices de Rennes. Vous retrouvez ça dans Rennes Noire, Nouvelle Noire, ça sort chez l'éditeur Asphalt. Et puis, vous pourrez retrouver rencontres et dédicaces des auteurs et autrices de Rennes Noire, mercredi 6 mai à 19h à l'espace Ouest France. À suivre plein les poches, numéro 67.
Plein les poches. Plein les poches, c'est la chronique Livre de poche par Soizig Le Bay sur Canal B.
Si vous écoutez Canal B et l'émission Le Grand Tout de temps en temps, vous savez que le mercredi, nous retrouvons Soizig Le Bay. Bonjour Soizig.
Bonjour Yann.
Pour nous parler livres aujourd'hui, c'est dans Plein les poches où tu nous présentes le Barman du Ritz. C'est par Philippe Collin que vous avez déjà entendu sur une radio nationale, France Inter. C'est Philippe Collin qui le fait paraître aux éditions du Livre de Poche.
Juin 1940, les Allemands rentrent dans Paris. Partout, le couvre-feu est de rigueur, sauf au Ritz. Avide de découvrir l'art de vivre à la française, les officiers allemands y côtoient l'élite parisienne, tandis que derrière le bar, œuvre Frank Mayer, le barman spécialiste des cocktails inédits. Il a l'art d'entendre ce qui se dit sans avoir les écouter. Son métier exige qu'il se souvienne de tous ses clients et de leurs préférences. Au bar du Ritz, les clients se sentent accueillis, reconnus, respectés. Hemingway, Cocteau, Guitry, Arletty, Corinne Lucher le fréquentent assidûment. Les officiers allemands vont beaucoup aimer cet endroit. Drôle de bonhomme que ce Frank Mayer, né autrichien. Il a connu les tranchées lors de la Première Guerre mondiale, du mauvais côté. A émigré aux États-Unis où il a découvert l'art du cocktail dans les bars les plus huppés de Manhattan. Rentré en Europe, il est recruté par le Ritz, alors que les bombes tombent sur Paris, que la population survit difficilement, que la nourriture se fait rare. L'hôtel du Ritz et son bar ne manquent de rien. On s'y goberge, on s'y enivre. Un havre dans la tourmente. Frank Mayer a de quoi s'inquiéter. Il est juif, non circoncis. Il s'est bâti une biographie catholique. Et Luciano, l'apprenti qu'il protège, lui aussi est juif. Lui aussi a de faux papiers. Les espions pullulent dans ce petit monde. Les années passant, la répression se fait de plus en plus dure. Les officiers allemands sont remarquablement bien élevés, cultivés. Parmi eux, Ernst Jünger, l'auteur déjà bien connu à l'époque, qui apprécie la compagnie du barman. Pendant 4 ans, l'élite de l'armée allemande va trinquer avec Coco Chanel, la terrible veuve du Ritz ou encore Sacha Guitry. L'argent coule à flot et Frank en reçoit sa part. Il organise dans les couloirs feutrés de l'hôtel des trafics de papier pour permettre aux familles juives argentées de quitter la capitale grâce à un diplomate de l'ambassade de Suède. Ce n'est pas sans scrupules que notre héros se livre à ces trafics et s'enrichit, à l'image de bien des Français d'époque, mais il faut bien vivre et il se persuade qu'il sauve des vies. L'arrivée de la Gestapo va changer l'ambiance. On n'est plus dans l'entre-soi et les officiers vont être appelés sur le front de l'Est. Il faut se préparer au pire. Philippe Collin, je pense que beaucoup de monde le connaît pour ses podcasts et ses émissions sur France Inter, qu'il a produit, hein, Le Pen, Blum, Les Résistances, Les Collabos, tous passionnants. Alors, il s'essaye pour une fois et pour la première fois à son premier roman, à sa première fiction, qui est remarquablement documentée, évidemment. Il y peint un tableau nuancé de l'occupation et il s'appuie sur l'histoire authentique de Franck Maillère.
Aujourd'hui, Soizic, tu nous parlais de Barman du Ritz par Philippe Collin, paru au Livre de Poche. Merci beaucoup, on te retrouve prochainement à mercredi, comme de juste, sur Canal B, pour nous parler bouquins. À bientôt.
À bientôt.
Poche, c'est la chronique Livre de Poche par Soizig Le Bail sur Canal B.
On va s'en mettre plein les poches.
Je suis allé exhumer ce titre Double or Nothing du jazz musette allemand qui devait faire sensation au Ritz en 1940. C'était un titre de Albert Vossen enregistré en 1938. C'était pour illustrer ce très bon roman, apparemment, me dit Soizig Le Bail, Le Barman du Ritz de Philippe Collin, paru chez Le Livre de Poche. Dans la session info-concert du Grand Tour aujourd'hui, j'évoquerai ce qui se passera vendredi soir, vendredi 24 avril au Tiana Place Sainte-Anne. On y revient à la Place Sainte-Anne, on revient toujours à la Place Sainte-Anne quand on est à Rennes évidemment. Un concert proposé par Teenage Dépression qui vous permettra de retrouver Mr. Bones et Miss D en première partie des formidables Roberta Lips. On écoute pour commencer un titre de Mr. Bones, Rockabye Baby. Et puis on reparle de ce concert juste après.
I'm gonna move.
Le titre Rockabye Baby à l'instant par Mr. Bones et Miss D. Ils le joueront probablement vendredi soir, 24 avril, au Tiana Place Sainte-Anne. Ils font la première partie du groupe Roberta Lips qu'on écoute immédiatement avec cet excellent morceau chanté en espagnol. Un grand écart entre punk et soul, je trouve ça très réussi, rock'n'roll féminin tout à fait classe. Si vous ne les avez pas vus encore, les Roberta Lips, jetez-vous sur la possibilité de les retrouver vendredi soir grâce à Teenage Depression au Tiers la Taverne, tout ça pour une soirée en prix libre. On écoute le titre Nueve Meses et puis on se retrouve en tout cas jeudi de 17h à 18h pour une nouvelle émission Le Grand Tout. Retrouvez réécoute et playlist de l'émission sur canalb.fr. Ciao.